Hello and welcome to Tour de Table, a podcast series dedicated to a bilingual discussion of the political, economic and security challenges confronting our world and whether and how Canada is prepared to address them. I'm Jennifer Welsh, a professor of global governance and security at McGill University, where I direct the Center for International Peace and Security Studies.
Et je m'appelle Frédéric Mérand, professeur et directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Avec Jennifer, depuis maintenant un an, nous offrons un point de vue montréalais, québécois, saskatchewanais et canadien sur le monde. Bonjour Jennifer.
Bonjour et bon anniversaire.
Dans cet épisode, nous nous penchons sur un sujet délicat, mais incontournable pour un balado d'affaires internationales. Le conflit israélo-palestinien. C'est un sujet délicat parce qu'à la différence d'autres enjeux que nous avons abordés depuis un an dans ce balado, par exemple la guerre en Ukraine et la réforme des Nations Unies, ce sujet déchire nos sociétés, nos universités et parfois même nos amitiés. Certes, on trouve des analyses et des avis tranchés à propos de la guerre en Ukraine, mais peu d'observateurs sérieux contestent la responsabilité de Vladimir Poutine dans l'invasion d'un pays souverain, par exemple. Le conflit israélo-palestinien est d'un autre ordre, puisque des observateurs sérieux, des collègues, des étudiants, des responsables de toutes les familles politiques s'affrontent sur la question de savoir qui porte la responsabilité du conflit. Certains, parfois, oublient même leur humanité en se désintéressant des conséquences qu'ont les actions menées par un camp contre l'autre. Donc, analyser ce conflit exige beaucoup de doigté, mais il demeure aussi un sujet incontournable parce que depuis 1948, des millions de Palestiniens ont été menés à l'exil et des millions d'autres mis dans une situation qui ressemble à celle des populations coloniales. Parce que l'impossibilité de trouver une paix durable entre Israël et ses voisins arabes gangrène une région, le Proche-Orient, qui demeure stratégique pour le reste du monde. Et enfin parce que, à celles et ceux qui pensaient pouvoir se désintéresser du sort des Palestiniens, les événements qui se sont déroulés depuis les attaques meurtrières menées par le Hamas le 7 octobre 2023 ont rappelé que la question palestinienne continuait de préoccuper l'opinion publique de Londres au Caire et de Montréal à Paris. Alors, au-delà des pertes de vies humaines, des pertes qui sont plus nombreuses du côté palestinien, mais tragique et inacceptable des deux côtés, le conflit israélo-palestinien se caractérise par une histoire longue, faite de récits qui se contredisent en fonction de la date à laquelle on commence cette histoire. Une histoire faite par des protagonistes qui changent d'identité et d'idéologie au cours du temps. Une histoire instrumentalisée par des acteurs internes aux sociétés israéliennes et palestiniennes, mais aussi par beaucoup d'acteurs externes, États ou mouvements transnationaux, qui attisent le conflit parce qu'ils servent leurs propres intérêts. Jennifer et moi avons longuement réfléchi aux chercheurs qui pourraient nous aider à dénouer les fils de cette histoire et nous permettre de mieux comprendre le temps présent. Dans ce premier épisode consacré au conflit, nous recevons Alain Dikoff, un spécialiste du conflit exemplaire par sa rigueur, sa lucidité et surtout par une humanité qu'il ne réserve pas aux uns davantage qu'aux autres. Actuellement professeur invité à l'Université Columbia, Alain Dikoff est professeur à Sciences Po Paris, où il a été le directeur du Centre de recherche internationale, le CERI, de 2014 à 2023. Il a un lien étroit avec le Québec et il est membre étranger de l'Académie des sciences sociales de la Société royale du Canada. Alain Dikoff a publié un texte classique en français que j'ai souvent utilisé dans mes cours, « La nation dans tous ses états, les identités nationales en mouvement ». Mais surtout, pour notre propos d'aujourd'hui, il a publié une série d'ouvrages qui font référence. Je citerai simplement « Le conflit israélo-arabe », Israélien et palestinien, l'épreuve de la paix et l'invention d'une nation, Israël et la modernité politique, traduite en anglais chez Columbia University Press sous le titre The Invention of a Nation, Zionism and the Making of Modern Israel. Son plus récent livre, Israël-Palestine, une guerre sans fin, 22 questions décisives, est un point de vue qui se veut, à l'image de son auteur, distancié et objectif sur un sujet qui suscite beaucoup de passion et de controverses. Alain, j'aimerais qu'on commence par l'histoire de ce conflit qui ne date évidemment pas des attaques du 7 octobre, mais de la création d'Israël, juste après la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste. Et même un peu avant, on pourrait dire à l'époque du mandat britannique. Peux-tu nous rappeler les conditions dans lesquelles l'État d'Israël a été fondé et ce qui demeure pertinent pour comprendre la situation aujourd'hui?
Alors d'abord, merci pour votre invitation et je suis heureux de pouvoir me joindre avec vous autour de ce balado. Alors en effet, c'est toujours difficile de dire quand on commence, mais je crois que pour ce conflit en particulier, il est absolument impératif de remonter dans le temps. Et en effet, remonter dans le temps, ça veut dire même avant 1948. Parce que les conditions de création de l'État d'Israël sont posées, en fait, dans les 50 années, 60 années qui précèdent la création officielle en 1948. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle? À la fin du 19e siècle, il y a eu en Europe un mouvement qui s'est développé, qui s'appelait le sionisme, qui était un mouvement national qui visait à donner une patrie pour les Juifs, sur le modèle finalement d'autres mouvements nationaux, avec néanmoins évidemment une particularité qui explique beaucoup de choses qui sont venues après, à savoir que les Juifs étaient un peuple pour l'essentiel en diaspora, puisque 99% des Juifs vivaient en diaspora à la fin du 19e siècle. Ça veut dire déjà que c'est un mouvement national très sui generis et qui, pour se réaliser, ne pouvait pas se réaliser sans appui extérieur. Donc ça, c'est très important. Et ce, d'autant plus que dans les années 1880, quand le sionisme a commencé à apparaître comme mouvement et comme idéologie, il y avait, dans ce qui était alors la Palestine ottomane, 25 000 juifs et 280 000 arabes, soit 10 fois plus. Donc, cette donnée démographique de départ, a priori d'ailleurs, rendait totalement utopique le projet sioniste. Et d'ailleurs, il faut bien dire qu'à l'époque, la majorité des juifs n'y ont pas adhéré. Ils pensaient que pour tout un tas de raisons, ça n'était pas une bonne idée, que ça ne pouvait pas fonctionner. Et il y avait aussi l'opposition des ultra-orthodoxes religieux qui, pour des raisons théologiques, eux, étaient hostiles à l'idée. Donc, a priori, beaucoup de conditions négatives pour la réalisation de ce projet. Sauf que il y a la Première Guerre mondiale, et cette guerre mondiale va complètement transformer la situation de la région et va, en fait, poser les bases de ce qui deviendra, 30 ans plus tard, l'État d'Israël. Cette base la plus importante, c'est la déclaration Balfour. C'était la déclaration de Lord Balfour, dans une lettre qu'il adresse aux représentants sionistes en Grande-Bretagne, du 2 novembre 1917. Dans cette lettre-là, Balfour déclare que le gouvernement de Sa Majesté est favorable à la création d'un foyer national juif en Palestine. Ça, c'est le terme exact qui est utilisé dans ce texte-là. Cet engagement, en fait, de 1917, se retrouve dans un document qui s'appelle le mandat de la Société des Nations, qui était donc Société des Nations, donc l'ancêtre des Nations Unies de 1922. Et dans ce mandat, donc, qui est confié à la Grande-Bretagne, il est précisé que le mandataire, donc la Grande-Bretagne, est responsable pour mettre le pays dans les conditions politiques, administratives, économiques qui permettront l'établissement du foyer national juif, Jewish National Home, et de développer aussi l'autogouvernement des institutions, tout en sauvegardant les droits religieux et civils de tous les habitants de la Palestine, indépendamment de leur race ou de leur religion. Donc, en fait, il y a un engagement très clair qui est demandé, en quelque sorte, à la Grande-Bretagne de mettre en place, finalement, le foyer national juif, mais tout en ménageant les droits des autres habitants qui, comme je l'ai dit, était majoritairement arabe et à dominante musulmane. C'est quelque part, en fait, un mandat impossible qui est confié à la Grande-Bretagne. Et de fait, il s'avérera impossible à réaliser, en tous les cas, à tenir les deux bouts ensemble. Très vite, en fait, les affrontements vont commencer entre les deux communautés et elles vont se cristalliser autour de deux questions majeures, qui est d'une part la question de l'achat des terres par différentes organisations sionistes qui commencent à prendre pied en Palestine, et deuxièmement, l'émigration. Puisque, évidemment, le projet, du fait du déséquilibre démographique initial, ne peut se concrétiser, le projet sioniste ne peut se réaliser qu'avec l'immigration des Juifs de la diaspora. Et quelque part, évidemment, cette immigration, elle, dans l'entre-deux-guerres, elle va s'accélérer, essentiellement du fait de la dégradation de la situation des Juifs en Europe, d'abord en Pologne, dans les années 1920, et plus tard, à partir de 1933, évidemment, en Allemagne et puis en Autriche, et ça conduira à des vagues migratoires assez importantes qui modifieront, sans encore l'inverser à ce moment-là, l'équilibre démographique, puisque le recensement de 1946 donne 500 000 de Juifs et 1 250 000 Arabes. Donc il y a toujours une majorité d'Arabes, mais c'est vrai qu'il est proportionnellement moins importante, évidemment, que la fin du XIXe siècle, du fait de cette immigration. Donc, voilà où on en est en 46, et c'est sur ces entrefaites, en quelque sorte, que la Grande-Bretagne va faire finalement le constat qu'elle n'est plus en mesure de tenir, en quelque sorte, de réaliser les objectifs du mandat, que les deux populations sont qu'on peut pas trouver un minimum de consensus, que on est dans une logique plutôt d'affrontement, et donc va remettre le bébé, si je puis dire, à la nouvelle organisation qui a été créée à la suite de la SDN, l'ONU, et finalement après une commission qui va se rendre en Palestine, le vote a lieu le 30 novembre 1947, c'est le fameux plan de partage qui va partager la Palestine mandataire en deux États, un État juif et un État arabe. Et ce partage est accepté par les Juifs parce qu'il leur donne pour la première fois finalement une reconnaissance internationale de la souveraineté, mais il est refusé par la partie arabe, non seulement les Palestiniens, mais les États arabes voisins, qui sont encore pour la plupart d'ailleurs liés surtout à la France et à la Grande-Bretagne, mais qui sont quand même dans un processus d'affirmation de leur indépendance. Donc il est refusé par la partie arabe et c'est la guerre qui va durer donc jusqu'en janvier 1949. Et qui va, au cours de cette guerre, c'est-à-dire au cours de la guerre elle-même, que l'État d'Israël va être créé officiellement le 14 mai 1948. Mais évidemment, quand l'armistice intervient en janvier 49, rien n'est réglé. Bon, l'État juif voit le jour, c'est vrai, mais il y a deux territoires, à savoir Gaza d'un côté et de l'autre côté la Cisjordanie, qui sont pour le premier sous administration égyptienne et pour le second annexés par le royaume hachémite de Jordanie. Donc finalement, oui, Israël a obtenu son indépendance, mais c'est un État qui est rejeté par son environnement, en quelque sorte. Et ensuite, c'est toute la suite, évidemment, de toutes les différentes séquences de guerre qui vont s'en suivre.
Il y aura ensuite plusieurs guerres entre Israël et les pays arabes. On ne va malheureusement pas pouvoir toutes les aborder, mais plusieurs guerres qui auront pour effet, dans un premier temps, d'accroître le contrôle d'Israël sur une partie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, puis après ce qu'on appellera le processus de paix au Moyen-Orient, une forme de restitution, mais de nouvel aménagement qui semble possible et qui nous orienterait vers deux États. On parle aujourd'hui surtout, et avec raison, de la guerre à Gaza, qui a causé donc environ 30 000 victimes du côté palestinien jusqu'à maintenant, mais la situation en Cisjordanie ne semble guère plus prometteuse. Certes, l'autorité palestinienne n'est pas en guerre avec Israël, mais la colonisation qui gruge les terres et qui humilie les Palestiniens là-bas pourrait avoir des effets semblables. Dans quelle mesure est-ce qu'on doit aujourd'hui traiter la réalité de Gaza et celle de la Cisjordanie comme une seule réalité palestinienne ou plutôt comme des réalités politiques distinctes?
Alors, permettez-moi d'ajouter quand même une chose, c'est que c'est vrai que l'épisode guerrier que l'on connaît a évidemment des effets dévastateurs sur la bande de Gaza et un nombre considérable de morts, y compris de civils. Mais cet épisode particulier, évidemment, qui s'inscrit malheureusement dans des décennies d'affrontements, il est aussi la conséquence de l'attaque du 7 octobre, qui était une attaque, il faut le dire, totalement inédite pour Israël par son ampleur, par le nombre de morts, hein, presque 1200 morts, en majorité là aussi des civils, des beaucoup de femmes, d'enfants aussi, on le sait, victimes aussi de sévices sexuels. Donc il y a eu un tournant du 7 octobre. Et ça explique aussi évidemment que la campagne militaire, la guerre déclenchée par l'État d'Israël, est elle aussi tout à fait inédite. Les épisodes précédents d'affrontements entre Israël et Hamas ont été d'ampleur beaucoup plus limitée et ont, heureusement d'ailleurs, fait beaucoup moins de victimes, même s'il y a eu aussi beaucoup de victimes dans les épisodes précédents. Là, on est vraiment dans autre chose. Ça, je pense qu'il faut quand même bien souligner la spécificité, quelque part irréductible, du moment que l'on connaît depuis le 7 octobre. Alors ensuite, sur la question que vous posiez un petit peu de la question palestinienne, on pourrait le résumer peut-être de la façon suivante. C'est une cause commune. Disons, il y a une question palestinienne un peu globale, mais en même temps, il y a des trajectoires singulières à l'intérieur du peuple palestinien. Il y a des trajectoires singulières parce qu'elles dépendent de leur destin varié. On a d'une part, évidemment, les réfugiés qui se sont retrouvés après 1948 à l'extérieur de la Palestine historique, donc ceux qui se sont retrouvés pour l'essentiel au Liban, en Syrie et en Jordanie. Donc eux, ce sont des vrais, les réfugiés de la première heure. Bon, maintenant évidemment leurs descendants, bien évidemment leurs petits-enfants, voire leurs arrière-petits-enfants. Ça, c'est la première catégorie. C'est là d'ailleurs qu'est né historiquement l'OLP et surtout les groupes de Fedaïn dans les années 1960. La deuxième catégorie, c'est les Palestiniens de Gaza. Alors, ils sont dans une situation un peu particulière parce que ils sont les Palestiniens de Gaza sont pour l'essentiel à 80% des réfugiés eux-mêmes de ce qui est devenu l'État d'Israël, en particulier du sud du pays. Et ils se sont retrouvés aussi dans une situation singulière du fait de la géographie même, puisque ils se retrouvent dans 360 km², donc coincés entre Israël et la frontière égyptienne. La troisième catégorie, ce sont les Palestiniens de Cisjordanie, qui, en tous les cas, aujourd'hui, se trouvent dans une situation particulière, dans la mesure où ils sont en effet gérés par l'autorité palestinienne qui a été créée en 1994. Et dans cette Cisjordanie, les Palestiniens sont pour l'essentiel des gens qui habitaient en Cisjordanie, donc ils sont des résidents de Naplouse ou de Ramallah, mais il y a aussi des camps de réfugiés, mais en nombre beaucoup moins important qu'à Gaza. Et enfin, il y a les Palestiniens de Jérusalem Est, qui sont encore dans un statut différent, dans la mesure où, donc ils sont à peu près 250 000 aujourd'hui, ils sont aussi, évidemment, ils ont été intégrés, hein, contre leur volonté, évidemment, dans l'État d'Israël, qui a annexé Jérusalem Est en juin 1967, tout de suite après la guerre des six jours, mais ils sont dans un statut quand même différent, qui est assez largement plus favorable pour eux, puisqu'ils sont résidents, donc ils ont des droits que les autres Palestiniens, en particulier ceux de Cisjordanie, encore davantage de Gaza, n'ont pas. Des droits, en particulier de nature sociale, qui leur sont octroyés un petit peu comme à des citoyens israéliens. Et il faut dire aussi, pour être complet, si on veut vraiment être complet, qu'il y a la situation, alors là, pour le coup, qui est une trajectoire vraiment très parallèle, hein, des citoyens arabes d'Israël, qui sont quand même 20% de la population, qui se définissent aujourd'hui comme palestiniens, mais qui ont évidemment une toute autre histoire, parce qu'ils sont devenus citoyens dès 48, certes citoyens avec parfois l'objet de discrimination, en particulier jusque dans les années 1960, mais grosso modo, ils sont dans une situation évidemment qui n'est pas du tout comparable à celle des Palestiniens de Gaza, bien évidemment. Donc s'il fallait caractériser encore une fois la question palestinienne, on peut dire oui, c'est une cause commune, mais avec des trajectoires singulières, voire très différentes d'un groupe à l'autre.
Alain, I came of age studying international relations, and when I think about the conflict prior to the 1990s, we looked at episodes like 1967, 1973, and studied them as, you know, conflicts that had regional and global implications. But just as Frederic and I were emerging through university in the 1990s, we had much talk of a Middle East peace process. That was after the Oslo Accords that were signed in Washington in 1993, which was supposed to lead to the creation of a Palestinian state side by side with the State of Israel. So many times on our television screens, or now our computer screens, we see that famous image of President Clinton with Israeli and Palestinian leaders in the screen with him. But the process never came to fruition. So I wonder if you can share with us your thoughts on what went wrong after Oslo.
Alors, il faut déjà préciser une chose, c'est que les accords d'Oslo ne prévoyaient pas expressément la création d'un État palestinien. Ça, c'est important de le dire. Alors évidemment, c'était quelque part l'esprit de ces accords, mais ce n'était pas dans la lettre du texte. Et ça explique beaucoup de choses aussi, je crois. Les raisons, en fait, pour lesquelles finalement ces accords ont échoué et n'ont pas conduit, en effet, à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, il y a deux raisons. La première, c'est que les accords étaient très complexes. Les accords d'Oslo prévoyaient une période d'autonomie pour les Palestiniens avec plusieurs zones en Cisjordanie, les zones A, B, C, A avec une autonomie presque complète, B avec une autonomie partielle, en particulier pas d'autonomie sur la question de la sécurité, et la zone C, qui était la zone finalement territorialement la plus importante, c'est-à-dire 60% quand même de la Cisjordanie, qui est restée entièrement contrôlée par l'armée israélienne. Donc les Palestiniens finalement n'avaient que 40% de à peu près 5500 km². Et pendant cette période d'autonomie, ce qui était censé se passer, c'est que il y avait un transfert progressif de certains pouvoirs, par exemple d'éducation, sur l'agriculture, etc., tout ce que vous voulez, des choses plutôt de nature administrative, et que dans le fond, il y avait un pari qui était fait, c'est-à-dire que cette autonomie permettrait, ou était censée en tous les cas permettre, de faire émerger une confiance mutuelle entre les deux parties, qui évidemment avaient été divisées par des affrontements particulièrement violents dans les années 70 et 80, surtout à la fin des années 80, lors de ce qu'on appelait la première intifada, donc entre 1987 et 1993 précisément. Donc l'idée, c'était qu'en effet, l'autonomie permette de générer de la confiance. Et c'est là qu'on arrive au deuxième obstacle, c'est que malheureusement, cette confiance, elle n'a pas émergé. Elle n'a pas émergé parce que très vite, il y a eu à l'intérieur des deux sociétés, du côté israélien comme du côté palestinien, des adversaires en fait de ces accords qui pensaient que c'était des mauvais accords, que c'était des accords qui étaient profondément injustes, qu'ils les rejetaient en fait, qui étaient opposés à un compromis territorial avec l'autre partie. Et donc, ce que ces adversaires ont fait, c'est en fait tout simplement saboter quelque part les accords, et ils l'ont fait par la violence. Et il y a évidemment deux épisodes particulièrement importants qu'il faut évoquer. Le premier, c'est celui de novembre, du 4 novembre 1995. C'est l'assassinat du premier ministre israélien par un extrémiste religieux juif. Donc ça a été là aussi, pour le coup, un traumatisme énorme dans la société israélienne. Et ça a surtout fait disparaître quelqu'un qui avait, je dirais, la confiance de la population pour mener à bien ses accords avec l'OLP. Et bon, Pérez a essayé de reprendre le relais, mais malheureusement, il n'a pas été en mesure de d'établir un vrai climat de confiance en 1996, et ce, d'autant moins que du côté palestinien, cette fois-ci, les Palestiniens, et le Hamas en particulier, se sont lancés dans des campagnes d'attentats suicides absolument terribles, qui visaient des cafés, qui visaient des autobus, qui visaient des civils, en fait, hein, dans différents lieux ou dans différents moyens de transport. Et évidemment, ça a énormément nui à la crédibilité du processus de paix, et ça a conduit d'ailleurs à la première élection de Netanyahou comme Premier ministre en mai 1996, donc qui a battu Shimon Peres. Alors je dis élection parce que à cette époque-là, il y a un système qui a depuis disparu, un système d'élection des faits directs du Premier ministre au suffrage universel. Donc, quelque part, les adversaires islamistes d'un côté et nationalistes religieux de l'autre sont parvenus quelque part à leur fin, parce qu'à partir de ce moment-là, je dirais que même si le processus s'est officiellement poursuivi encore pendant quelques années, c'est vrai qu'il avait quand même beaucoup d'obstacles à surmonter et que la conjoncture était beaucoup moins favorable qu'elle ne l'avait été finalement pendant une période assez courte de 2-3 années. Hein. C'est ça. Qui s'est passé donc vraiment le milieu des années 90. Après, on est, malgré la dernière tentative de l'administration américaine, Clinton, en juillet d'abord, et ensuite décembre 2000, de parvenir à un accord avec Ehud Barak, donc le premier ministre israélien de l'époque, et de l'autre côté, Yasser Arafat, eh bien, ça n'a rien donné, ces accords. Il n'y a pas eu d'accord à Camp David en juillet, et quand Clinton, à la toute fin de son mandat, a présenté ses fameux paramètres, il était tout simplement trop tard.
And it's interesting listening to you, you know, that initial Oslo Accord, one thinks of it as this, you know, high-level peace deal with the negotiators isolated from their respective societies, and as you describe it, these deals that exist at a high level can be sabotaged by those within societies and the movement that's going on underneath both societies. So when we look at the conflict today in Gaza, it's very much a war waged by the Israeli Defense Forces and the specific group Hamas that planned and carried out those devastating attacks, killing Israeli civilians. But we've heard very little from the Palestinian Liberation Organization, Fatah, or even other groups such as Islamic Jihad or maybe you've heard more from them and it's just that we haven't. But there was even a time when there were several secular Palestinian organizations, such as the Popular Front for the Liberation of Palestine. So I wonder if you could tell us a bit more about how Hamas, a group that took control of Gaza but not the West Bank in 2007, and a group that's considered as a terrorist organization by some countries, including France, including Canada, has become the most visible face of the Palestinians.
Alors, en effet, il est très clair que la guerre actuelle est une guerre comme les précédentes, dans le sens celles qui ont eu lieu depuis la fin des années 2000 entre l'armée israélienne et Hamas, même s'il y a aussi le djihad islamique est aussi impliqué, mais c'est un groupe petit par rapport au Hamas, c'est pas du tout comparable. Donc c'est un nouvel épisode, même s'il a les spécificités fortes que j'ai indiquées au début de notre conversation. Alors en fait, je dirais la situation actuelle est la résultante de finalement d'un élément capital, c'est la division du mouvement palestinien. Le mouvement palestinien, originellement, a été un mouvement donc qui était abrité par ce qu'on appelait l'Organisation de libération de la Palestine, donc qui avait été créé en 64 par les États arabes, qui a ensuite été investi, si je puis dire, par les groupes de fedaïn, donc de combattants, à partir de 1968, et c'est là qu'est apparue évidemment la figure du palestinien, à l'époque avec des lunettes de soleil et aussi un keffieh, donc les lunettes de soleil ont disparu, mais le keffieh il est toujours là. Ce mouvement était dominé par le Fatah, donc le mouvement national palestinien, donc dirigé par Yasser Arafat. Et cette domination est restée réelle, je dirais, jusque à la fin des années 80, à peu près début des années 90. Et c'est là, évidemment, qu'il y a un lien entre ce qui se passe au niveau intra-palestinien et le devenir, ou plutôt l'échec du processus de paix. Parce que le Fatah, Arafat en particulier, ont fait un pari avec Oslo. Ce pari, c'est celui de construire finalement la confiance avec les Israéliens et de parvenir à une solution à deux États. Si on fait un peu très rapidement ce qu'on appelle maintenant de l'histoire contrefactuelle, on pourrait dire, oui, qu'est-ce qui se serait passé si ce pari avait été réussi? Ben, évidemment, on ne serait pas du tout dans la même situation aujourd'hui, ça c'est très clair. Même si on ne pourrait pas dire exactement ce qui se serait passé, il est sûr qu'il se serait passé autre chose. Le problème, c'est que ça a justement raté, ça n'a pas marché, et donc le Fatah, quelque part, a été décrédibilisé progressivement, au moins en partie, par cet échec d'Oslo. Il s'est affaibli. En plus, la gestion de l'autorité palestinienne, d'abord par Arafat et ensuite par Mahmoud Abbas, n'a pas été, je dirais, parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu du népotisme, il y a de la corruption, il y a des choses qui ne vont pas, évidemment, de l'autorité palestinienne, même une croissance aussi même de la répression interne contre les Palestiniens eux-mêmes par les services de sécurité palestiniens. Donc le Fatah, c'est quelque part, été déconsidéré, même si ça n'est pas totalement, il ne faut pas complètement l'éliminer, mais il a quand même été affaibli, déconsidéré. Et parallèlement, le mouvement qu'on connaît sous le nom de Hamas, qui est en fait le visage politique des frères musulmans palestiniens, donc une vieille organisation qui a été créée en Égypte à la fin des années 1920, mais qui a essaimé surtout le bassin méditerranéen, le sud du bassin méditerranéen, surtout au Moyen-Orient. Et bien parallèlement, le Hamas, d'abord lors de la première intifada, donc l'affrontement entre Israéliens et Palestiniens entre 1987 et 1993, ce qu'on appelait aussi parfois la révolte des pierres, donc la révolte de la population palestinienne contre l'occupation qui à l'époque avait 20 ans, donc de 67 à 87, cette révolte, elle a été, je dirais, portée par le Fatah à l'époque, incontestablement, mais aussi par une nouvelle organisation créée par les frères musulmans, qui était le Hamas, et qui s'est affirmée pour la première fois durant cette première intifada. Après, le Hamas a toujours choisi une stratégie de confrontation avec Israël, c'est très clair. J'ai eu l'occasion de le dire, la campagne d'attentats des années 95-96 contre des civils en Israël, c'était une volonté de faire dérailler le processus de paix. Et quelque part, ça a marché dans un certain sens, mais ça a accru finalement la division au sein du mouvement palestinien. Ça a accru la division au sein du mouvement palestinien et ça a conduit en 2006 à des élections qui finalement ont été des élections au niveau des Palestiniens qui ont été convoquées par l'autorité palestinienne. Mais ces élections n'ont pas donné en fait le résultat que l'on pensait. Elles ont donné une victoire politique au Hamas, qui est devenu le parti le plus important au Conseil législatif palestinien. Et là, je dirais que ça fait complètement imploser les choses, parce que le Hamas a été tout de suite mis à l'écart par la communauté internationale, en tous les cas, soyons clairs, par l'Europe, l'Union européenne, par les États, le Canada, les États-Unis, etc., etc. C'est pas la même chose du côté de la Russie et d'autres puissances, mais en tous les cas, il a été mis un peu sur le banc du fait de son implication dans le terrorisme, qui est indéniable. Ça, c'est une chose. Mais du coup, à l'intérieur du mouvement palestinien, ça a accru la division et ça a conduit finalement à la prise de pouvoir par la force du Hamas, mais uniquement dans la bande de Gaza. Parce qu'en Cisjordanie, le Hamas était moins fort, et surtout Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, était beaucoup plus puissante qu'elle ne l'était dans la bande de Gaza, y compris avant, quelque part un petit peu cette sorte de coup d'État de 2007. Et depuis finalement, depuis 2007, donc ça fait quand même maintenant longtemps, le mouvement palestinien est divisé en réalité, il continue à être divisé entre ceux qui continuent à penser, et c'est le Fatah pour faire vite, puis quelques autres groupes qui pensent que malgré tout, malgré les limites qu'a eu Oslo, c'était quand même la bonne stratégie et qu'il faut quand même essayer de continuer dans cette logique-là, et les autres, le Hamas en particulier ou le djihad islamique, qui disent finalement non, tout cela ne sert à rien, on n'arrivera jamais à rien, c'est uniquement par la force, par la violence qu'on obtiendra le respect de nos droits.
J'aimerais qu'on se tourne vers la société israélienne. Bon, il fut un temps, peut-être que c'est une perception fausse de ma part, mais le temps des kibboutz où Israël avait la réputation d'être plutôt progressiste et jusqu'au tournant des années 2000, donc dans cette période des années 90 que tu as décrite, Alain, la gauche et le camp de la paix, qui ne sont évidemment pas la même chose, mais c'était des forces politiques considérables dans ce pays. Mais là, Benjamin Netanyahou est premier ministre presque sans interruption depuis 2009. Il est issu de la droite dure, du Likoud. Il a formé des coalitions avec des partis politiques encore plus à droite, favorables parfois à la colonisation, voire au suprémacisme juif. Et ce sont des partis qui, surtout depuis le 7 octobre 2023, mais déjà avant, semblent avoir le vent dans les voiles dans l'opinion publique. Alors, sur une longue période, que s'est-il passé pour que le nationalisme le plus extrême s'installe de manière aussi forte dans le paysage politique israélien?
Je pense qu'il y a deux explications. La première, elle est vraiment politique et elle revient un petit peu à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que dans le fond, le processus de paix a été un pari, ça a été un pari raté. Et évidemment, beaucoup de gens, y compris d'ailleurs qui étaient plutôt à gauche, ont fait une sorte d'examen de conscience et se sont au moins recentrés, c'est-à-dire sont devenus moins engagés dans le processus de paix parce que tout simplement, ils ont pensé que après l'échec de Camp David en particulier en 2000, il y avait les Palestiniens, bon, c'était leur vision, hein, je ne dis pas qu'elle est juste, mais c'était leur vision, c'est que les Palestiniens finalement n'étaient pas prêts au compromis, voilà. Et que donc, c'était le pari des années 90, c'était un pari qui ne fonctionnait pas. Donc, cet élément, il est très important et surtout qu'il faut quand même évoquer, ne serait-ce que rapidement, ce qui s'est passé entre 2000 et 2005, c'est-à-dire ce qu'on appelait la deuxième intifada, l'intifada dite Al-Aqsa, qui a mis aux prises l'armée israélienne, mais aussi une partie des colons qui étaient armés, contre des groupes palestiniens, après une phase de mobilisation populaire, surtout des groupes en réalité d'activistes hein, qui attaquaient l'armée ou des colons, mais aussi ont commis toute une série d'attentats dans les villes israéliennes, en Israël même. Donc évidemment, ça a aussi eu énormément d'impact pour encore davantage convaincre des gens que finalement, il n'y avait pas de solution de négociation possible. Donc ça, cet élément, il est là, il est lourd et il pèse énormément. Ça, c'est la première explication. La seconde explication, elle est plus en profondeur, c'est que dans le fond, il y a au niveau de la société elle-même, d'un point de vue vraiment des groupes sociaux, il y a une transformation de la société juive en Israël. Alors je précise de juive, puisqu'en Israël, il y a aussi 20% de citoyens arabes. Mais dans la société juive, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des groupes qui se sont renforcés d'un point de vue à la fois démographique et aussi, pour le coup, politique. C'est d'abord les groupes religieux. Parmi les groupes religieux, ce qu'on appelle les sionistes religieux sont ceux qui sont le plus engagés politiquement. C'est grosso modo, justement, des gens comme le ministre Ben-Gvir, c'est-à-dire des gens qui sont habillés comme des gens, je dirais, laïcs, mais qui ont quand même la kippa sur la tête. Ça, c'est ça qui les distingue. Donc, ces sionistes religieux, ils sont devenus de plus en plus nationalistes et très actifs dans les colonies. Ça, c'est un élément très important. Et l'autre groupe de religieux, ce sont les ultra-orthodoxes, qui, en général, sont beaucoup moins engagés politiquement, qui, pendant longtemps, d'ailleurs, n'étaient pas sionistes, hein, et d'ailleurs ne le sont pas davantage devenus, mais sont devenus quand même un peu plus nationalistes, et qui, surtout, font énormément d'enfants. Les familles de 7-8 enfants ne sont pas du tout rares chez eux. Donc, les religieux, ils sont devenus plus importants sociologiquement. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième, ce sont ce qu'on pourrait appeler les traditionalistes séfarades, c'est-à-dire les traditionalistes venant des communautés juives qui sont venues d'Afrique du Nord en particulier, ou du Moyen-Orient, le Yémen, l'Irak dans les années 50 et au début des années 60, et qui se sont installés en Israël. Et ces traditionalistes séfarades, qui d'ailleurs, c'est une catégorie que j'utilise évidemment, mais qui recoupe en partie aussi la catégorie des religieux, on ne peut pas clairement toujours les séparer, mais d'un point de vue analytique, je pense que c'est quand même important, parce que ils ne se situent pas dans le même niveau de religiosité. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue politique, ils sont à droite. C'est eux qui ont conduit à la première victoire du Likoud en 1977, et depuis, ils sont restés en partie fidèles à ce parti conservateur de droite. En tous les cas, ils ne votent pas à gauche, ça c'est sûr. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, et évidemment, Netanyahou est un petit peu leur idole. Et le troisième groupe, ce sont presque 1 million de juifs ou apparentés qui sont venus de l'ex-Union soviétique, qui sont différents des deux autres groupes dans la mesure où eux ne sont pas religieux du tout, ils sont même très laïcs, mais ils sont aussi très nationalistes. Hein, ils sont aussi très nationalistes. Et donc, ils votent aussi à droite. Hein, ils votent aussi à droite, très clairement. Donc, si on met tous ces groupes ensemble, on arrive quand même à une partie qui est plutôt majoritaire de la population israélienne aujourd'hui et qui clairement se situe à droite, vote pour des partis de droite ou au mieux de centre-droit, mais c'est quand même plutôt les partis de droite. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aujourd'hui une faiblesse structurelle du centre-gauche et a fortiori de la gauche, mais qui est liée aux évolutions tout simplement sociologiques de la société. Et donc, ce sera très difficile de renverser la vapeur actuellement, et encore, à mon avis, davantage, évidemment, vu ce qui se passe depuis ce qui s'est passé les 7 et 8 octobre derniers.
So we talked a little bit already about global repercussions of the war in Gaza, but it's also had very immediate impacts in the Middle East region. The rapprochement between Israel and Saudi Arabia has been put on the back burner in the Red Sea. Yemeni Houthis have been using the pretext of the war to attack cargo ships. This has disrupted global trade, supply chains. And in several countries in the region, Iran is sponsoring insurgent groups that are incensed by the fate of the Palestinians. So can you tell us now how you see the regional dynamics evolving as a result of the October 7th attacks and the ensuing conflict?
Alors, indéniablement, ce qui se passe depuis le 7 octobre a eu des effets régionaux. Mais il y a parfois des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que l'effet déstabilisateur a finalement été plus réduit que ce qu'on aurait pu craindre. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que le conflit, finalement, dérape en quelque sorte très rapidement et que ça conduise à une guerre régionale généralisée, au moins au Liban, avec peut-être des effets déstabilisateurs. On peut penser à la Jordanie, où il y a une population palestinienne importante. Mais rien de cela ne s'est passé, quand même. Donc, il y a en effet des affrontements au sud Liban et au nord d'Israël, donc entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Il y a en effet les attaques des Houthis contre les navires occidentaux en mer Rouge. Mais finalement, pour le moment, ça reste encore relativement contenu. Et je note que tous les acteurs qui, outre évidemment le Hamas, sont impliqués dans ces attaques contre Israël, sont tous des proxys de l'Iran, hein, sont liés à l'Iran d'un point de vue assez fort en général. De l'autre côté, je dirais, les pays arabes sont plutôt sur la défensive. Ils ont été pendant un premier temps plutôt muets, c'est vrai, mais une fois qu'ils ont repris l'initiative, ils ont surtout cherché à calmer le jeu autant que possible. On peut penser en particulier l'intervention du Qatar, qui a joué un rôle important dans les libérations d'otages en novembre, et qui continue à jouer un rôle dans la recherche d'un cessez-le-feu. Et on peut aussi penser à l'action de l'Égypte, qui a mis un peu plus de temps à s'impliquer à nouveau, mais qui retrouve le rôle qu'elle a toujours eu de médiateur, en fait, hein, de tenter de concilier les positions des uns et des autres, ce qu'elle peut faire précisément parce qu'elle a évidemment des relations avec Israël depuis 1979. Et enfin, il y a la Turquie, donc le seul État avec l'Iran non arabe de la zone, mais qui a aussi joué un rôle de médiation et qui a une certaine proximité avec Hamas, comme on le sait. Donc, je dirais que la guerre a des répercussions, mais certainement moins que ce qu'on aurait pu craindre, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête, mais elle aurait pu quelque part avoir un effet de spillover beaucoup plus rapide que cela n'a été le cas.
Yes, there was lots of talk early on about escalation and spillover. Very interesting. And we're going to have a chance as we move on in our series on this conflict to talk a little bit more about the region. Alain, I'm going to ask you a question now that's difficult, but I'm sure that you're getting from many of your colleagues. And that is what you see as the most likely scenarios for the next 3 to 5 years. Particularly in relation to the two-state solution, which we're hearing so much about. What would need to happen, both short and longer term, for that to become a reality? But what do you also see more broadly as likely scenarios as we move forward?
Bon, d'une part, évidemment, je suis un politiste, et comme tous les politistes, on n'aime pas trop se projeter dans l'avenir, donc je me garderai bien de dire ce qui va se passer, parce que si vous m'aviez posé la question en septembre, ben est-ce que il y aurait ce qui s'est passé, évidemment, comme tout le monde, j'aurais pas pu prédire quoi que ce soit. Je peux simplement dire ce qui me paraît, enfin disons un peu ce qui est un peu dans la balance. Alors il y a ce qui est susceptible de se passer et ce qui devrait se passer. C'est pas la même chose évidemment. Ce qui est susceptible de se passer pour moi, c'est, et on en voit déjà quelques esquisses, c'est que dans le fond il y aura une modification de la situation à Gaza. Ça, Israël y tient. Et c'est clair qu'elle n'a pas lancé une offensive aussi longue qui a déjà, certes, causé énormément de morts du côté palestinien, mais il faut le dire aussi, beaucoup de morts du côté des soldats. Hein. C'est quand même une guerre qui est coûteuse en termes humains pour Israël. Il faut toujours rappeler que c'est un petit pays. Et en plus, ce sont des personnes qui sont pas des militaires de carrière pour la plupart. Hein. Ce sont des appelés. Hein. Ou des gens qui ensuite font leur période de réservistes. Donc c'est une guerre qui est quand même coûteuse pour tout un tas de raisons aussi pour Israël. Donc avoir mené une offensive de cette ampleur, c'est pour quand même qu'il y ait une modification à la fin. Donc la modification, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une façon ou d'une autre que le Hamas ne sera plus dans la même position que celle qu'il occupe aujourd'hui. Il ne sera plus maître de la bande de Gaza comme il l'est aujourd'hui. Et donc la modification pourrait consister en une sorte de présence, alors qui pourrait être éventuellement régional, peut-être de quelques États arabes, peut-être même sous un parapluie un peu plus international, si les Américains sont peut-être en mesure de convaincre des parties extérieures à la région de s'impliquer, pour empêcher, je dirais plutôt surtout une remilitarisation de la bande de Gaza. Bon, donc ça, je dirais que c'est peut-être une sorte de scénario un peu à court terme, qui ne réglera rien sur le fond, hein, mais qui est susceptible de se passer. Mais en même temps, bien évidemment, ça ne veut pas dire que des courants, en particulier le courant islamiste, ne continuera pas à exister politiquement d'une façon ou d'une autre. C'est ça on ne peut pas, même un triomphe militaire, ce qui à mon avis ne sera pas le cas, mais enfin même une victoire militaire totale ne permettrait pas pour autant de faire disparaître un courant politique, parce que voilà, il a aussi des bases dans la société, même s'il recourt par ailleurs au terrorisme. Donc, c'est quelque chose qui nous donnera un autre, entre guillemets, statu quo. Mais ça réglera rien. Alors, au-delà de ça, là j'en passe à la deuxième partie, qu'est-ce qui devrait se passer? Qu'est-ce qui serait porteur de davantage d'espoir quelque part malgré tout? Moi, je crois que, et c'est vrai qu'on en reparle beaucoup ces derniers temps dans les milieux diplomatiques, c'est finalement que la solution des deux États, pour moi, elle demeure diplomatiquement la plus pertinente. Même si, dans la pratique, je connais évidemment tous les obstacles qui s'y sont opposés dans le passé, et même si aujourd'hui, quelque part, on est dans une sorte de réalité mono-étatique. Ça, c'est vrai. Israël contrôle en réalité à la fois son territoire souverain de 1949, mais aussi la Cisjordanie d'une certaine façon et sans doute demain Gaza d'une autre façon. Mais c'est pas une solution sur le long terme. Ça, je crois que tous les gens un petit peu qui connaissent bien le dossier sont d'accord. Ils peuvent diverger sur beaucoup de choses, mais ils peuvent tous reconnaître, je pense, que c'est pas une solution sur le long terme. Donc la solution sur le long terme, je pense qu'en effet, ça demeure malgré tout la solution des deux États. Mais la grande question, c'est de savoir comment y arriver, comment la réaliser. comment la réaliser alors qu'on sait que il y a en particulier du côté palestinien avec Hamas, ou même si le Hamas n'existera plus comme organisation en tant que telle, mais en tous les cas ceux qui se réclament plus ou moins de quelque chose de parallèle, d'approchant. Donc il y a des oppositions de ce côté, il y a des oppositions, comme on le sait, du côté israélien, et même aujourd'hui le gouvernement actuel n'est pas favorable à ça. Donc ça veut dire que comment on peut surmonter ces obstacles-là ? Pour moi, c'est quelque chose qui existait déjà dans le passé, mais qui n'a jamais vraiment été appliqué. C'est que sans une pression externe, rien ne se passera. Voilà. Moi, je suis convaincu de ça. S'il n'y a pas de pression externe, et en particulier de pression américaine, il ne se passera rien. Je sais que, en disant cela, je mesure tout de suite les faiblesses de cette possibilité de mettre en avant un interventionnisme américain plus exacerbé, parce que, oui, nous sommes en période électorale aux États-Unis, et c'est pas le meilleur moment de se lancer dans un interventionnisme diplomatique effréné. Mais ça pourrait se faire éventuellement après l'élection de novembre de cette année. Mais si ça n'intervient pas, il est très clair qu'on aura juste une modification de la situation qui sera temporaire, mais qui, quelque part, annoncera la prochaine guerre.
Alain Dikoff, pour comprendre le conflit aujourd'hui à Gaza, tu nous as ramené au 19e siècle. Et en moins d'une heure, nous avons couvert l'Holocauste, la Nakba, la guerre des six jours, la guerre du Yom Kippour, l'Intifada, la deuxième Intifada. Trop rapidement, évidemment, mais je pense que c'était important pour nous de nous pencher sur l'histoire longue du conflit israélo-palestinien. Je te remercie au nom de Jennifer, de moi-même, de tes éclairages sur les deux sociétés, sur les deux réalités. Et aussi, je dois dire que dans le contexte actuel qui est le nôtre, dans les universités nord-américaines particulièrement, je salue ton courage d'avoir accepté notre invitation.
Ce fut un plaisir de discuter avec vous.
Alors, pour en apprendre davantage sur l'Université de Montréal, le département de sciences politiques et le Centre d'études et de recherche internationales, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur X, où j'aime bien partager les activités et les analyses de mes collègues.
And to learn more about McGill University's Center for International Peace and Security Studies, please visit us at sepsi-sips.ca. Follow us on Twitter or X @sips_McGill. Subscribe for more episodes of Tour de Table available on our website, sepsi-sips.ca. That's it from us. Thank you, as always, to Karim Faraj, our producer. We hope you enjoyed listening.